VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Raissa Gérondin avec vous en direct de Washington pour cette édition du lundi 25 décembre 2017. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, des affrontements entre orpailleurs ont fait une quinzaine de morts le jour de Noël. Après le report et contestation, jour de vote au Libéria, un peu plus de 2 millions de Libériens aux urnes pour le second tour des élections présidentielles, opposant l'ex-footballeur George Weah au vice-président Joseph Boakai. Exécution en Égypte de 15 personnes reconnues coupables de terrorisme. En Russie, le gouvernement défend la légitimité de la présidentielle de mars prochain, malgré le rejet de la candidature du principal opposant. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Tchad, des affrontements entre orpailleurs ont fait une quinzaine de morts le jour de Noël dans l'extrême nord du pays. Des détails avec vous, Bagasikoura.
Ces violences se sont déroulées hier à Iri-Bourgouri, aux confins des frontières du Tchad et de la Libye. C'est une localité où se côtoient des orpailleurs venus des différentes régions du pays. Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, une première bagarre entre un autochtone et un allogène a fait d'abord un mort. Il s'en est suivi un affrontement généralisé qui a entraîné une quinzaine de morts et plusieurs blessés. Ces affrontements ont opposé des membres de l'ethnie Zagawa venus se venger d'une première attaque perpétrée par des Goran Mourdia, selon la presse locale qui faisait état de plusieurs véhicules détruits et de l'arrivée sur place d'une colonne de l'armée dans l'après-midi pour éviter de nouvelles violences et règlements de comptes.
Les Libériens ont rendez-vous aux urnes aujourd'hui pour leur nouveau président. Un duel qui oppose la légende du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. L'un des deux hommes sera désigné successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la seule femme à avoir été élue chef d'État en Afrique, Salwa Jafari.
Un second tour visiblement mieux organisé que le premier. Plusieurs électeurs ont pu voter rapidement sans que se constitue de longues files d'attente. Pour éviter les agglutinements autour des bureaux de vote, le registre national des électeurs a été revu par la Commission électorale nationale et les listes des inscrits affichées plusieurs jours à l'avance à l'extérieur des centres de vote.
Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que le taux de participation semble être inférieur à ce que nous avions au premier tour, mais je pense que c'est dû à une bonne organisation. Les gens savent où aller pour voter.
Les bureaux de vote resteront accessibles jusqu'à 18h pour les quelques 2,1 millions d'électeurs enregistrés. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. En lice, le vice-président sortant Joseph Boakai et l'ex-star du ballon rond, George Weah, qui a d'ailleurs voté ce matin sous les acclamations de ses supporters.
Je vais gagner.
Le président élu n'aura pas la tâche facile. Le Libéria est un pays meurtri par 14 ans de guerre civile, puis par l'épidémie d'Ebola, dont il peine toujours à se redresser.
Et selon les premières observations de l'Union européenne, ce second tour de la présidentielle au Libéria se déroule dans le respect du processus électoral et de manière mieux organisée qu'au premier tour. Au Nigeria, 10 habitants de villages à la population principalement chrétienne ont été tués au cours de 2 attaques dans l'état de Kaduna, situé dans le nord du pays. Un porte-parole du gouverneur de l'état a précisé que des troupes avaient été depuis déployées pour empêcher d'autres attaques. Le sud de l'état de Kaduna connaît depuis une trentaine d'années des affrontements meurtriers entre les communautés d'agriculteurs chrétiens et d'éleveurs musulmans. Les accrochages sont essentiellement dus à des conflits pour les terres et les pâturages. Une explosion s'est produite sur un important oléoduc qui achemine le brut du sud libyen vers un terminal du nord-est du pays, provoquant une baisse de la production de plus de 70 000 barils par jour. C'est ce qu'a déploré la Compagnie nationale de pétrole, en ajoutant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, s'il s'agissait d'un incident technique ou d'un acte de sabotage ou même de terrorisme. Et au Tchad, on retourne au Tchad où le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé pour sa première visite officielle aujourd'hui. Le chef de l'État turc est accompagné d'une dizaine de ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, et d'une centaine d'hommes d'affaires turcs. Comme au Soudan où il s'était rendu avant N'Djamena, l'enjeu de cette étape tchadienne est notamment économique, au moment où le Tchad traverse une grave crise économique. Et en Centrafrique, le chef de guerre Nourdine Adam sort de son silence. Dans un entretien accordé à l'AFP, il menace de marcher sur Bangui. Le chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, une faction de l'ex-rébellion Séléka, parle d'une ligne rouge dont le gouvernement s'approche et qui pourrait le pousser à lancer ses hommes, comme en 2013 sur Bangui. Adam accuse le président Touadéra d'être un criminel qui n'a aucune chance de finir son mandat. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un drame évité de justesse à l'aéroport de Boston. Un avion de la compagnie JetBlue a dérapé sur le tarmac, gelé après son atterrissage. Tous les passagers ont pu sortir indemnes de l'appareil. Les passagers ont été transportés par bus depuis le tarmac jusqu'à un terminal de l'aéroport Logan de Boston. Élection présidentielle en Russie. L'Union européenne désapprouve le rejet de la candidature d'Alexei Navalny, le principal opposant au président Vladimir Poutine. Mais le Kremlin défend la légitimité du scrutin de mars prochain. Les précisions avec Dili Dico.
La décision de la commission électorale russe jette un sérieux doute sur le pluralisme politique en Russie et la perspective d'élections démocratiques l'année prochaine, a affirmé dans un communiqué Maya Kosiantych, porte-parole du Service européen pour l'action extérieure. L'annonce de la commission électorale russe n'est pas une surprise. L'institution ayant à plusieurs reprises averti que l'opposant ne pourrait se présenter avant 2028 en raison d'une condamnation à 5 ans de prison avec sursis dans une affaire remontant à 2009. La porte-parole du Service européen pour l'action extérieure a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que M. Navalny n'avait pas eu droit à un procès équitable en 2013. Il avait finalement été condamné en février dernier pour détournement de fonds. L'UE appelle les autorités russes à inviter les observateurs européens lors des élections présidentielles du 18 mars prochain, a ajouté Maya Kosiantych.
Une frégate de la marine britannique a escorté un navire de guerre russe qui s'approchait des eaux territoriales britanniques le jour de Noël. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Le ministre de la Défense britannique, Gavin Williamson, a indiqué qu'il n'hésiterait pas à défendre les eaux territoriales de son pays et ne tolérerait une forme quelconque d'agression. Des groupes rebelles syriens ont rejeté l'appel de Moscou à tenir un sommet avec le régime fin janvier pour trouver une issue au conflit qui ravage la Syrie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La Russie et l'Iran, alliés du président Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien de la rébellion, ont proposé de tenir un congrès de dialogue national à Sotchi les 29 et 30 janvier. 40 groupes rebelles ont repoussé cette offre. Nous rejetons totalement la tentative de la Russie de contourner le processus de Genève, ont-ils indiqué. Ces groupes font référence au pourparlers de paix tenu à plusieurs reprises à Genève, sous l'égide de l'ONU et qui n'ont jamais abouti. Damas a par contre accepté de participer au sommet de Sotchi, alors qu'il l'a souvent critiqué le processus de Genève. Parmi les factions signataires de ce processus figurent le mouvement islamiste Ahrar al-Sham et des groupes comme les brigades al-Mutassem. Ces derniers reprochent à Moscou sa partialité dans le processus de règlement du conflit. Les négociations ont toujours achoppé sur le sort de M. Assad, le régime refusant d'évoquer l'éventualité de son départ du pouvoir réclamé par l'opposition.
Un dissident chinois a été condamné à 8 ans de prison. Il s'agit de la sentence la plus lourde infligée à un défenseur des droits de l'homme depuis la reconduction de Xi Jinping à la tête de la Chine en octobre dernier. Wugan, arrêté en mars 2015 alors qu'il travaillait pour un cabinet d'avocats de Pékin, a été condamné pour tentative de subversion. Il avait été arrêté dans le cadre d'un coup de filet visant quelques 200 avocats, juristes et militants s'occupant de dossiers sensibles. La plupart d'entre eux ont été relâchés, mais plusieurs ont été condamnés à la prison. La Fédération israélienne des échecs réclame des compensations financières à la Fédération internationale après que plusieurs de ses joueurs ont été privés de visa par l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un tournoi international organisé à Riyad. 7 joueurs israéliens d'échecs avaient demandé un visa pour participer au tournoi mondial Roi Salman prévu à Riyad du 26 au 30 décembre. Il s'agit de la première compétition internationale d'échecs dont l'organisation est confiée à l'Arabie Saoudite. Et selon les règles de la Fédération internationale, un pays ne peut pas priver des joueurs, quelle que soit leur nationalité, de participer à une telle compétition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le FMI conseille aux États et aux institutions régionales de la zone CEMAC de tenir leurs engagements de politique économique pour espérer une amélioration progressive de la situation économique et financière. La poursuite de l'assainissement budgétaire, la réduction des investissements publics non prioritaires, l'accroissement des recettes budgétaires non pétrolières, l'amélioration du climat des affaires, de même que le renforcement de la gouvernance et de la transparence, soutiendraient une croissance plus forte à moyen terme. Au Cameroun, le gouvernement commencera début janvier la distribution gratuite des ordinateurs portables aux étudiants locaux. Ce programme vise à stimuler le développement de l'économie numérique et la diffusion des savoirs au Cameroun. Les étudiants de Yaoundé 1 et 2 seront servis les premiers, puis en février suivront Douala, Bamenda et Boya, ainsi que les établissements du secteur privé. Ces laptops portent la marque PBHEV, Paul Biya Higher Education Vision. Le gouvernement a commandé en Chine 500 000 ordinateurs pour un budget de 75 milliards de francs CFA. Le premier acompte de 80 000 ordinateurs a été livré en fin de semaine dernière. Enfin, la Turquie veut s'offrir plus de parts de marché en Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan est en tournée au Soudan, au Tchad et en Tunisie pour stimuler cette coopération économique. La Turquie est déjà très active dans le transport aérien et Turkish Airlines dessert plus de 151 destinations africaines.
Bonsoir.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Oui, voici le segment présenté par Yakuba Ouedraogo. N'Golo Kanté désigné joueur français de l'année 2017.
Tout à fait, Raissa, le milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe de France d'origine malienne a reçu le 60e trophée du joueur français de l'année décerné par le magazine France Football. Il était en concurrence avec Kylian Mbappé. Kanté a été plébiscité avec 90 points, devançant l'attaquant du PSG de 5 petites unités. Karim Benzema du Real Madrid complète le trio de tête loin derrière avec 52 points.
Et le Boxing Day réussi pour Harry Kane qui a déballé ses superbes cadeaux à Wembley.
Et oui, face à Southampton, Kane s'est offert un triplé pour une nette victoire des Spurs 5-2. Avec désormais 56 buts, l'attaquant anglais de Tottenham est sûr de finir meilleur buteur de l'année civile 2017. Toute compétition confondue, il devance Lionel Messi 54 réalisations et le trio à 53 buts, composé de Robert Lewandowski du Bayern Munich, Cristiano Ronaldo du Real Madrid et Edinson Cavani du PSG.
Et les autres résultats de ce Boxing Day ?
Raissa, Manchester United s'est fait peur mais a réussi à arracher le match nul à la 91e minute. 2-2 face à Burnley qui menait pourtant 2-0 à la mi-temps. Victoire de Chelsea 2-0 devant Brighton. 2-1 pour Watford face à Leicester. 0-0 entre West Bromwich et Everton. Et 3 buts partout dans la rencontre Bournemouth-West Ham.
Et le vote du footballeur africain de l'année est ouvert au public.
C'est une nouveauté, Raissa. Ainsi en a décidé la CAF qui donne aussi la possibilité aux fans de désigner le 11 type de l'année pour le joueur africain de l'année. Les votes des fans se font sur le site de la CAF. Ça se joue entre Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang.
pour l'équipe de l'année. Les fans peuvent voter sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de l'instance africaine de football. Les lauréats seront dévoilés le 4 janvier à Accra, au Ghana.
Merci Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République centrafricaine, l'un des principaux chefs des groupes armés sévissant dans l'extrême nord du pays menace de reprendre la guerre et marcher sur Bangui. Dans une interview à l'AFP, Nourdine Adam, le leader du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, le FPRC, accuse le gouvernement africain de s'approcher de la ligne rouge. Félix Yepassi Zambrou a joint Daniel Andazuma, préfet intérimaire de la Vadeka, la Vakaga, la région contrôlée par Nourdine Adam et ses hommes.
C'est pour la première fois que j'apprends de telles informations. Donc, on va chercher à savoir ça, si c'est vrai ou faux.
Mais sinon, vous avez dit, Adam et ses hommes sont toujours dans la Vakaga, dans la région de Birao.
Effectivement, Nourdine est à Birao avec tous ses éléments. Pas seulement à Birao, à Ndélé, à Bria et partout, même à Bandoro aussi.
Comment se comporte-t-il vis-à-vis de la population?
La population est là. La population est en train de vaguer à ses occupations. Nourdine est là avec ses troupes. Donc, sur le plan sécuritaire, à Birao, il n'y a pas de problème. Les gens circulent très bien. Il n'y a pas de problème à Birao.
Non, la population n'est pas inquiétée de la présence de Nourdine Adam et ses hommes là-bas dans la région.
Non. Puisqu'ils ne font pas des exactions. Ils sont troupés, ils attendent seulement une négociation avec le gouvernement. En tout cas, au niveau de la population, il n'y a pas d'inquiétude.
Comment s'est passée la fête de Noël dans la région, notamment à Birao?
Ça, c'est une belle question. Et moi-même, j'ai été invité à l'église baptiste hier, depuis 9h du matin jusqu'à 12h. On était là, l'imam de la mosquée était là, avec plusieurs invités, plusieurs musulmans aussi. Ensemble, on a célébré la fête de Noël à l'église baptiste hier.
Et comment se prépare la fête du Nouvel An?
La fête du Nouvel An, c'est une fête qui est à la portée de tout le monde. Donc, comme il y a la sécurité, comme il y a la paix à Birao, ça doit se passer dans la normalité. Il n'y a pas de problème, j'espère.
Et au niveau de la scolarité, les enfants vont à l'école en ce moment, monsieur le préfet?
Les enfants vont à l'école, mais il y a un problème d'enseignants. La plupart des enseignants sont encore à Bangui. Ils viennent par la voie aérienne de la MINUSCA. La semaine passée, si Antonien était là, on espérait avoir encore d'autres. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas arrivés. On nous a promis que les autres arriveront le jeudi prochain.
Les élèves de la terminale ont-ils passé normalement l'épreuve du baccalauréat cette année?
Oui, pour l'année passée, l'année scolaire 2016-2017,
selon un récent rapport du Centre de réflexion marocain OCP Policy Center sur 10 migrants ouest-africains, 7 restent sur le continent en s'enracinant dans différents pays sur leur route. Le Maroc fait partie de ces pays devenus pays d'accueil pour des milliers de subsahariens. Récit de Salwa Jafari.
Sur l'une des principales artères de la capitale Rabat, Aliou Ndiaye se fond dans une foule de marchands ambulants. Depuis qu'il a renoncé à traverser la Méditerranée pour l'Espagne, ce jeune Sénégalais a multiplié les petits boulots avant de se mettre à son compte.
Je considère que le Maroc c'est un pays ami. Je considère que le Maroc c'est un pays dans lequel j'ai le droit aussi. Facilité de gagner ma vie. Quand quelqu'un est chez lui, il pense qu'il a le droit d'aller quitter pour voir dans les autres pays pour gagner sa chance. Je crois qu'il est possible de le faire.
Le parcours d'Aliou illustre une tendance qui polarise l'attention des responsables politiques, des humanitaires et des chercheurs. Avec la déstabilisation de la Libye et le durcissement de la politique migratoire européenne, le Maroc, pays de transit, est devenu un pays d'accueil. Les autorités marocaines ont basculé d'une approche sécuritaire qui criminalisait l'immigration clandestine à un discours d'intégration lié au rapprochement avec l'Union africaine, affirme le sociologue Mehdi Aliwa, par ailleurs président d'une association d'aide aux migrants. Papa Demba Mbaye a quitté son poste d'enseignant au Sénégal il y a 7 ans pour vivre l'aventure au Maroc. Attiré par les promesses d'emploi des centres d'appel, un secteur en plein développement en quête de francophones, il a vite compris que ce n'était pas un métier d'avenir. Grand défenseur du vivre ensemble, il anime une troupe de théâtre en périphérie de Rabat.
C'est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai entendu à la radio donc, le roi dire qu'il faut faciliter donc, les papiers, mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas été entendu.
Les autorités bouclent actuellement une opération de régularisation pour quelques 25 000 demandes de séjour après une vague de 23 000 régularisations en 2014. Leur nombre croissant n'est pas sans créer des tensions, des violences. Les dernières en date ont opposé en novembre dernier des riverains et des jeunes subsahariens d'un campement de Casablanca. On ne peut pas être accueilli à bras ouverts partout, constate Olivier Foutou, auteur et président d'une chorale à la cathédrale de Rabat. Ce Congolais de 34 ans est très remonté contre la mauvaise image donnée par ceux qui ne pensent qu'à l'Europe et ne veulent pas s'intégrer.
N'est-ce pas, à découvrir aussi l'autre. À travers les chants ethniques, on peut connaître vraiment l'identité, n'est-ce pas, de chacun.
Et une identité de résident congolais au Maroc ne lui déplaît pas.
C'est ici au Maroc donc, que je trouve plus de diversité des nationalités. Et les gens sont un peu libres ici par rapport à d'autres pays.
Les statistiques officielles montrent que près de 35 000 migrants ont obtenu une résidence en 2014. C'est légèrement au-dessus du nombre de migrants européens venus travailler ou cherchant une maison de retraite sous le soleil marocain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, la foire internationale de Dakar se tient depuis le 16 décembre et ce jusqu'au 31. Plus de 40 pays y prennent part, avec plus de 300 000 visiteurs chaque année. Cet événement est considéré comme le plus grand rendez-vous commercial du Sénégal et de la sous-région. Il permet aux commerçants de vendre et de faire découvrir les articles de leurs pays respectifs. L'intégration africaine y est mise en avant. Et cette année, l'Égypte est un pays invité d'honneur afin d'exposer largement son commerce et sa culture. Reportage à Dakar, Sedina Abagaï.
Au-delà des échanges commerciaux ponctuels, les commerçants présents à la foire de Dakar veulent nouer des partenariats à long terme, comme le souligne Ahmed Mohamed, un exposant venu d'Égypte.
Nous sommes ici parce que c'est une grande foire. Il y a beaucoup d'échanges et le business marche bien. Les clients viennent en nombre, mais le plus important, ce n'est pas de vendre, mais d'exposer les produits afin de trouver des partenariats. D'ailleurs, si on trouve des partenaires, on sera heureux de rester au Sénégal pour fructifier notre business.
Boubacar Sadi Diboudjédjou, membre des exposants de Ziguinchor, estime que la foire de Dakar permet également aux producteurs locaux de montrer leur savoir-faire.
La foire est un événement qui permet à chaque terroir de valoriser un peu les potentialités locales. Donc à Casamance, nous avons une région agricole où se développent aussi des activités de pêche, d'arboriculture et tout. C'est bien de vendre parce que c'est vrai qu'on a mis du temps pour transformer les produits. Il va falloir qu'on trouve une occasion pour vendre comme on l'a fait. Mais là, c'est ponctuel. Pour la continuité, il va falloir trouver des partenaires.
La foire de Dakar va devenir un carrefour pour les commerçants qui veulent nouer des partenariats. Cheikh Ndiaye, directeur de la foire de Dakar, affirme que de nouvelles offres sont mises en place pour atteindre cet objectif.
La foire de Dakar, ce n'est pas que des échanges commerciaux, c'est aussi un forum, c'est aussi des rencontres B2B, c'est aussi toutes sortes d'occasions pour se parler, pour converser, pour développer des relations d'affaires. Donc toute personne intéressée par un partenariat quelconque, dans quelque secteur que ce soit, peut avoir l'opportunité de trouver ses partenaires.
Vieille de plus de 40 ans, la foire internationale de Dakar est en perpétuelle mutation. Au-delà des offres classiques, elle se positionne désormais comme une opportunité pour les commerçants qui veulent étendre leur business. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le continent africain est riche en histoire et c'est ce qui fait de l'Afrique une grande destination touristique. Certains s'y rendent par curiosité, d'autres pour voir les animaux ou encore pour explorer l'espace géographique. Au Cameroun, certains voyagent pour trouver le salut et même la guérison, comme ce lieu de pèlerinage Ansimalem. C'est un récit de Gaby Dorsil.
C'est l'un des sites les plus populaires au Cameroun. La grotte mariale de Nsimalen, située à quelques encablures de Yaoundé, la capitale, attire les hommes, femmes et enfants qui se baignent dans un lac de boue, une scène quasi quotidienne. Ces pèlerins disent trouver guérison et réconfort dans ce lac. On raconte que la Vierge Marie est apparue à Nsimalen dans l'après-midi du mardi 13 mai 1986 sur un arbre entouré d'anges. Chidjou Jasmine, une chrétienne catholique, partage son expérience.
La première fois que je suis venue, pour moi, j'étais évasée, j'étais plus calme, je n'étais pas venue dans l'intention de prier et tout. Mais avec le temps, à chaque fois que je viens ici, je me trouve un peu plus spirituelle, mon esprit un peu plus ouvert, je sens que j'ai la foi.
On dit qu'après l'apparition de la Vierge Marie, des choses étranges ont commencé à se passer. Le sol a brillé et des malades ont trouvé la guérison. Depuis lors, les chrétiens arrivent de plusieurs pays pour visiter ce lieu sacré. Frédéric François Zoc a voyagé de France.
C'était un sujet tabou, vous comprenez ? C'était un sujet tabou, mais au fur et à mesure que les gens y donnaient les témoignages, au fur et à mesure que les gens y venaient, ils trouvaient la guérison par la foi. Et c'est ça qui fait la particularité.
Malgré les polémiques qui entourent l'apparition de la Vierge Marie, l'histoire a eu plus de crédibilité après qu'un certain nombre de miracles s'y sont produits. Le phénomène est désormais accepté par l'Église catholique qui avait lancé une enquête pour vérifier la véracité de ces miracles. Écoutons l'abbé Jean-Bertrand Menguet.
C'est un lieu de pèlerinage qui est rattaché à l'historique du phénomène de ce qu'on appelle les présumées apparitions de la Vierge Marie à Nsimalen. Depuis le 13 mai 1986, les petits enfants qui jouaient dans la cour de l'école catholique de l'autre côté ont aperçu une femme qui flottait dans les airs et qui serait venue se poser sur un arbre à cet endroit précis. Pendant 9 jours, on a pu l'apercevoir. Et c'est de là qu'est partie cette ferveur populaire qui, de jour en jour, n'a pas arrêté de grandir. Des gens viennent de partout pour venir prier à cet endroit.
L'abbé Menguet croit que s'il continue à venir, c'est en partie parce que ses visites produisent beaucoup de fruits et des résultats concrets dans leur vie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
From the very, very first time that my body jammed you, girl. I've been happy because you just smell nice for the type of eyes you get. Whatever the taste, baby, make it don't stay, you gotta go hold on me. The girl of my dreams, so sturdy. Baby, all the fun possible to see you again. The sun they shine, the rain they fall, the wind they blow. Girl, I think of you.
ainsi s'achève cette édition du Monde aujourd'hui avec Wizboy et Tia Lovingitis. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'est Lionel Gaïma. À la console, Kelvin Poller. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Raissa Girondin à Washington. On reste connectés. Excellente suite de programme.